bien, tout le monde est assis, tout le monde dort. Non, ça va, vous êtes réveillé, c'est bien, je vois. Très bien. Nous allons parler du futur et nous allons parler de l'avenir. Et nous allons nous poser la question de savoir si l'un et ou l'autre sont impensables. C'est une question qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais c'est une question qui va devenir de plus en plus d'actualité. On se plaint régulièrement depuis les années 60, puis depuis les années 80, puis depuis les années 2000, du déclin de la science-fiction, qui serait victime de l'accélération du progrès technique. Je crois que ce matin, il y a eu une intervention dans le public qui allait un petit peu dans ce sens. On fustige l'abandon de l'aventure spatiale, qui finalement n'est pas si abandonné que ça. On sait à quel point la prospective et la science-fiction marchent sur les brisées l'une de l'autre, ce qui peut parfois poser problème. Alors, est-ce que vraiment on ne peut plus penser le futur? Bien, c'est ce que nous allons voir avec les participants à cette table ronde. Dans le désordre alphabétique, Denis Bajram, dessinateur et scénariste, auteur, ce que j'avais complètement oublié il y a 30 secondes, mais c'est dû à mon état de confusion mentale, auteur de la très célèbre saga de science-fiction Universal War, en deux séries, la seconde étant, si j'ai bien compris, toujours en cours. Vous le verrez à l'œuvre, d'ailleurs, demain soir à 20h, sur cette scène, pour être interviewé sur la chose. Pour lui, le futur n'est pas impensable puisqu'il le matérialise, il le décrit pour avoir tous les attributs de la réalité. Catherine Dufour, qui est à ma gauche ici, elle a, si j'ose dire, plusieurs plumes à son arc puisqu'elle a travaillé dans la fantasy humoristique avec la série Quand les dieux buvaient, dans l'histoire de France revue et révisée, je crois à mon avis dans le bon sens, dans la critique littéraire avec la vie sexuelle de Lorenzaccio. Mais elle a aussi fourni à la science-fiction deux perles, dont le superbe Goût de l'immortalité, il y a maintenant quelques années, le temps passe, Catherine. Alors l'avenir, elle a su en tout cas le penser. On ne présente plus non plus Étienne Klein, d'autant qu'il a été sur cette scène il n'y a pas très longtemps, entre les mains, si j'ose dire, de Xavier Mauméjean. Et donc physicien au CEA et je crois aussi au CERN, surtout philosophe des sciences et, pour employer un néologisme, plutôt que vulgarisateur, je dirais popularisateur des sciences. Il m'a permis d'ailleurs, par rapport à la physique quantique, de ne pas être complètement perdu, mais simplement un peu complètement perdu, ce qui est déjà un progrès par rapport à l'état duquel je partais. J'aime que les choses me soient rendues claires, a-t-il un jour écrit. Je crois qu'il le fait très bien pour les autres. Le fait d'avoir suivi le déroulement des découvertes en physique depuis plus d'un siècle doit peut-être lui donner des armes pour penser l'avenir, sinon de la physique quantique, mais peut-être de manière plus générale. Il nous le dira. On ne présente plus non plus Xavier Mauméjean. C'est pourtant ce que j'arrête pas de faire tout le temps. Je ne présente plus personne, mais je présente en fait tout le monde. Romancier, éditeur, esprit aiguisé, toujours en train de dénicher le côté inattendu des choses, comme le fait sa relation amusée d'un séjour à Paris, au début du siècle, du jeune Franz Kafka. En revanche, on ne présente pas assez Nicolas Nova, enseignant à la Haute École d'Art et de Design à Genève et cofondateur du Near Future Laboratory, une agence de prospective et d'innovation. Il est également l'auteur de deux ouvrages aux moutons électriques, dont Futur, que je présente ici, qui s'interroge sur la possibilité, sinon de prévoir l'avenir, sinon de l'imaginer, mais éventuellement de le décrire et de le présenter. Voilà les personnes qui vont débattre de cette intéressante question. Le futur est-il impensable? Alors la première question que je poserai, elle est un peu bateau, mais elle consisterait à se poser, en fait, le problème de savoir si la science-fiction est mieux placé ou moins bien placé que la prospective pour penser l'avenir. L'un d'entre vous a-t-il une tentative de réponse à cette question? prospective versus science-fiction. Ah ouais, waouh, dit Catherine, d'un air intéressé, dans son petit carnet. Xavier.
Je dirais que la science-fiction pense le futur, mais elle pense un futur particulier qui est le futur assuré par la science et le futur qui garantira la science, ce qui n'est pas du tout le futur auquel chacun ici est confronté. Alors, est-ce qu'on peut penser le futur ? Oui, on peut le penser tout le temps, on le pense tout le temps. Moi, je dis souvent à mes étudiants, vous n'êtes pas là parce que vous m'aimez, vous êtes là parce que vous allez préparer un diplôme. Donc, le futur est déjà là pour vous, vous êtes ici dans le présent en vue du futur. Tandis que le futur de la science-fiction est un futur donné comme abouti. La science-fiction, par exemple, ne pense jamais les intermédiaires qui ont conduit à tel ou tel futur et le futur de la science-fiction, au moins le futur de l'anticipation, ce genre qui est particulier à la science-fiction, c'est un futur qui n'est que celui de la science et dont qui met en scène un récit rendu possible par la science et qui, à terme, donnera lieu à un nouveau bond de la science. Donc le futur de la science-fiction, d'une part de la science-fiction, n'a rien à voir avec la prospective, c'est un futur présentifié. Et puis, c'est tout, voilà, pour commencer, je dirais ça.
Bien, bien. Alors, je vais peut-être essayer de à moins que quelqu'un d'autre reprenne la question au vol, je vais peut-être essayer de poser la question un petit peu différemment. Finalement, on se pose la question de savoir si le futur ou l'avenir... J'aimerais un jour qu'on m'explique la différence entre le futur et l'avenir. En tout cas, si l'un ou l'autre est impensable, on peut renverser la question et se poser la question de savoir si le passé est lui-même impensable. Après tout, il est assez difficile de se mettre dans la peau d'un paysan du XIIe siècle ou d'un sénateur romain. Alors comment faire pour l'avenir ? Est-ce qu'il faut extrapoler ? Est-ce qu'il faut délirer, comme on le verra dans une autre table ronde après-demain ? Est-ce qu'il faut utiliser, je ne sais pas, la psychohistoire ? Est-ce qu'il faut utiliser le voyage dans le temps ? Est-ce que quelqu'un a une hypothèse concernant l'outil qui nous permettrait de penser le futur ?
Oui. Je vis avec une historienne au quotidien, donc c'est des discussions qu'on a à la maison. Une historienne scientifique, hein, quelqu'un pour qui le passé, ce n'est pas de la rigolade. Hein. Et pour moi, le futur, ce n'est pas de la rigolade non plus, donc on s'entend assez bien. C'est vraiment le même problème. La question est très juste. J'avais été au Festival de Blois de l'Histoire. Il m'avait intitulé une conférence « Historien du futur ». C'est vrai que les questions qu'on peut se poser de la représentation, de la compréhension, de l'analyse du passé et celles de la compréhension, de l'analyse et d'une certaine prospective qu'on pourrait faire en faisant de la SF sont vraiment les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, très très vite, on sait qu'on ne sait rien. Alors en histoire, quand on est payé par l'État pour faire des études d'histoire, on ne peut pas le dire. Moi, en SF, j'essaye de l'oblitérer, d'oublier la part scientifique, justement, qui est souvent très présente dans la SF, dans la tradition de Jules Verne, etc., qui serait de pousser la technologie actuelle et ce genre de choses. Je vais essayer, au contraire, de faire du chamanisme, c'est-à-dire de me mettre sur un plan beaucoup plus ancien de la prédiction du futur, les méthodes qu'on utilisait dans à Delphes, vous voyez.
Voilà une technique que j'avais effectivement passée sous silence, le chamanisme.
Voilà, alors je fais du chamanisme sans drogue, parce que j'ai le cerveau déjà assez maltraité comme ça. Mais il y a l'idée d'aller chercher autant dans la vibration, les sentiments, les angoisses, les questions que je me pose en tant que citoyen aujourd'hui, ma vision du futur que d'aller réellement la réfléchir de manière technologique. Même si je fais réellement l'anticipation en Universal War, c'est pas du tout de la prospective justement dans ce sens-là, c'est de la prospective sentimentale, poétique, voilà. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs de SF qui travaillent comme ça, qui parlent beaucoup plus de leur quotidien, de ce qui les entoure, que finalement d'une projection dans un futur très pensé, très en prospective justement, très. La différence entre la prospective finalement et la SF de fiction, pour moi, c'est que dans un cas, on essaye de se projeter à partir de tous les éléments d'aujourd'hui, alors que dans l'autre, finalement, on en prend un ou deux. Et on imagine les conséquences de ce un ou deux en sachant très très bien qu'on a oblitéré tout le reste et que c'est à la limite pas très intéressant puisque finalement notre travail, il est bien un travail de prendre avec une loupe grossissante des traits d'aujourd'hui et d'y réfléchir. La SF nous sert surtout à ça.
Ne vous battez pas. Peut-être aussi pour... moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais la prospective a aussi un souci de rigueur, puis de pas forcément fabuler ou de rester quand même sur, en tout cas dans la prospective à la française, un peu une espèce de scientificité, ce qui n'est pas forcément le cas de toute personne qui s'intéresse ou qui produit la science-fiction et l'anticipation, et qui peut du coup se sentir plus libre de tester, de composer d'autres mondes, de les faire advenir d'une manière qui est complètement singulière, qui n'a rien à voir avec éventuellement le passé. Et ça peut amener justement à faire une sorte d'expérience de pensée pour voir autre chose, pour imaginer un autre univers possible, un autre comportement, des conséquences d'enjeux scientifiques ou technologiques. Et bien souvent, peut-être là c'est un jugement un peu subjectif, mais ça parle plus que... Je ne sais pas qui ici lit régulièrement des documents de prospective très scientifiques, mais ce n'est pas toujours très facile à s'approprier ces enjeux-là pour imaginer des futurs possibles ou essayer de voir comment ils seraient mis en avant. Alors que la science-fiction, en tout cas certaines formes de science-fiction, peut les rendre soit plus digestes en prenant un peu des largesses ou en essayant de faire d'autres choses que de coller à une espèce de représentation de la réalité calquée sur le passé, comme l'a pu faire certaines écoles de prospective, ou le faire avec des moyens qui sont... c'est sûr que la BD, le roman, le film, c'est plus facile que de lire des textes très épais, de scénarios prospectifs avec des courbes qui montent tous en haut ou qui descendent tous en bas, quoi.
Mais est-ce que l'intuition ou l'imagination, au sens travailler sur des images, ne s'accompagne-t-elle pas d'un minimum de rationalité? Sinon, on est dans le rêve complet et on est pas dans... Je veux dire, sans se rapprocher particulièrement de la prospective, on est quand même dans une espèce de rationalité de la cohérence de l'univers concret.
Je pense que c'est le cas. Moi, je voulais pas dire par là qu'il n'y a pas de rationalité dans la manière de produire de l'anticipation dans la SF. Hein. Mais c'est pas du tout la même qu'un souci de scientificité.
Moi, je pense que la prospective, c'est vraiment l'outil de la SF. On se sert de la prospective et après, on va essayer d'en déduire quelles sont les évolutions mentales que ces évolutions techniques vont entraîner. Pour moi, c'est vraiment un background indispensable mais pas suffisant. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur Bajram, c'est vrai qu'on peut pas du tout penser le passé. C'est Duby qui le disait très bien, un cerf de l'an 1000, vous ne pouvez absolument pas savoir ni ce qu'il pensait, ni ce qu'il ressentait, ni sa vision du monde. Déjà rien que l'heure, savoir qu'on est le matin, l'après-midi, que c'est l'heure de manger, de dormir, qu'il y a eu un hier, qu'il y aura un demain et qu'il y a dans un mois et il y a 100 ans. Ça, vous oubliez. Ils avaient une vision cyclique du temps alors que la l'autre est linéaire. Donc rien que ça, il n'avait rien à voir avec nous. Ce qui n'empêche pas Duby, tout au long de son œuvre, d'essayer désespérément de comprendre cette mentalité, ce qui faisait agir les gens à cette époque. Et la science-fiction, c'est aussi ça, c'est une tentative désespérée d'essayer d'imaginer quels changements mentaux, les changements notamment techniques et pas que, aussi environnementaux, va entraîner sur la psyché humaine. Et on est à peu près sûr de se tromper, mais au moins on aura essayé. Un peu comme quand on pense à la façon dont nos ancêtres dans le passé pensaient à l'avenir, je vais pas la répéter cette phrase-là, nos ancêtres en 1900, ils imaginaient que dans 100 ans, il y aurait des voitures volantes et on se chaufferait au radium, mais toutes les femmes étaient toujours en corset, tous les hommes étaient toujours en redingote, ils n'avaient absolument pas vu cet aspect sociologique qu'on a nommé la libération de la femme qui fait que la femme a pu se mettre en pantalon. Ils n'avaient pas du tout prévu, je sais pas, l'invention du jean et notamment la mondialisation au niveau de la mode, l'invention du prêt-à-porter et finalement une certaine uniformisation de l'habillement. Et je dirais que ces images auxquelles je pense, vous avez dû les voir, ces anticipations de 1900 où on voit des voitures qui volent dans le ciel, c'est, je dirais, de la mauvaise SF, en sens où ils n'ont pas su prévoir les évolutions mentales qu'allaient entraîner les évolutions techniques.
Pour aller dans le sens que tu viens de décrire, Catherine, je me souviens d'une remarque que faisait H.G. Wells, jeune bourgeois intellectuel anglais du début du siècle, qui déclarait qu'il ne croyait pas au développement de l'automobile parce qu'il pensait qu'on ne trouverait jamais assez de chauffeurs. Ce qui est vraiment tout à fait significatif du fait qu'une éventuelle prospective technique se heurte à un préjugé social tout à fait fort et qui l'empêchait, qui l'aveuglait sur éventuellement une vision de l'avenir.
De la même manière que quand on regarde un péplum de 1960 ou un péplum d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On est bien dans des projections de notre temps à chaque fois sur le sujet.
En même temps qu'on reconnaît que ça se passe dans l'Antiquité, on reconnaît l'époque à laquelle ça a été filmé. Vraiment en même temps.
C'est beaucoup plus, même en général.
Oui, peut-être même encore plus, oui, c'est vrai. Étienne Klein, pardon.
Voilà, la question que vous posez, c'est est-ce que le futur est pensable ou impensable ? Moi, naïvement, je dirais que pour le penser, il faut déjà le représenter. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution dans les 30 dernières années assez radicale. Quand j'étais adolescent, dans les années 70, tous les jeudis, avec mes frères et sœurs, nous recevions Tintin, Pilote, d'autres magazines qui nous parlaient de façon hebdomadaire de l'an 2000. L'an 2000 était représenté au sens fort du terme, c'est-à-dire il était mis dans notre présent à partir de travaux de prospective ou de science-fiction parfois. Évidemment, il y a eu beaucoup d'erreurs. Tout n'a pas été prévu. Il y a des choses annoncées qui ne se sont pas produites. N'empêche qu'on était assez rassurés et on pouvait décider du chemin personnel qu'on allait suivre entre le moment où nous étions et puis ce futur qui était configuré. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette configuration du futur ne se fait plus, en tout cas pas de façon unanime, de sorte que nous serions bien embarrassés si nous devions expliquer à un adolescent d'aujourd'hui comment sera le monde en 2050, comment sera l'éducation, comment seront la géopolitique, qu'en sera-t-il de la question de l'énergie. Voilà. Et à chaque fois qu'on essaie de creuser ces questions, par exemple celle de l'énergie, on est plutôt pris d'angoisse.
Oui. Alors qu'à l'époque, non.
Ce qui veut dire qu'en une génération, la figure qui permettait de penser le futur, qui était la révolution. Quand j'étais adolescent, tous les matins au lycée, on me distribuait des tracts m'expliquant une vision suffisamment crédible du futur et suffisamment attractive pour que toute affaire cessante, j'aille préparer la révolution. Aujourd'hui, on nous propose une image du futur qui est suffisamment crédible et suffisamment répulsive pour que je fasse tout ce que je peux faire pour empêcher la catastrophe. Et donc on est passé comme ça en 30 ans de la figure symbolique de la révolution comme outil de prédiction du futur à la catastrophe. Et je pense qu'il faudrait se calmer et trouver une façon d'enchâsser nos projets dans quelque chose de moins extrême. Mais en fait, la nouveauté, c'est que le projet scientifique, par exemple, pendant très longtemps, pendant la période qu'on a appelée la modernité, il a été enchâssé dans un projet de civilisation, qui était le projet des modernes, le progrès, etc. Aujourd'hui, c'est moins net. Et je me demande si le futur est pensable dès lors que nous ne disposons plus d'une idéologie pour lui donner un sens qui permette de le représenter.
Oui, Xavier, puis Denis.
Oui, juste pour rebondir sur la question, sur la petite anecdote d'H.G. Wells, c'est l'exemple du fiacre. Par exemple, si... quelqu'un au 19e siècle qui était payé pour résoudre les problèmes de fiacre savait qu'en 2015, on n'a plus de problème de fiacre, penserait que dans le futur, on est devenu vraiment balèze dans la gestion des fiacres. Tout simplement, les fiacres ont disparu. Mais pour revenir à la question de la prévision du futur, ce qui est intéressant aussi, et je rebondis justement dans l'enchâssement de la réflexion sur le futur dans la société, dans une idéologie, c'est que on ne parle jamais du futur dans les journaux, dans les médias, on parle de l'avenir. L'avenir est devenu, par contre, un terme qu'on entend tout le temps. Par exemple, aux jeunes, on leur dit qu'il faut que tu prépares de plus en plus tôt, d'ailleurs, ton avenir. Il faut que tu penses à ton avenir. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir ? Et le mot, le terme futur lui-même a été exclu du discours comme s'il était inatteignable ou pas représentable, alors qu'on cherche à se représenter l'avenir. Et il faut bien avouer que les représentations communes de l'avenir sont grises, tendance noire même. Elles sont tristes. Ce qui d'ailleurs pourrait amener une question secondaire qui serait pourquoi il y a un désenchantement dans la science-fiction actuelle qui se tourne de plus en plus vers des passés plus ou moins revisités, etc. Mais par rapport à la question du futur et de la science-fiction, ce qui est intéressant, c'est que le futur de la science-fiction est toujours un futur extrêmement prévisible et rassurant, y compris dans la part plus ou moins pauvre de science qu'il y a dans la science-fiction. Par exemple, sur les lois de la science, les lois de la physique, dans la science-fiction, il peut y avoir, par exemple, des ruptures dans les lois de la science, mais qui sont toujours locales. Par exemple, dans une vallée, je sais pas, il y a plus de pesanteur, ou le temps est devenu réversible, etc. Mais il y a toujours cette idée qu'il y a une permanence des lois de la science dans la science-fiction. Par exemple, il n'est jamais envisagé que demain, vendredi, toutes les lois de la science s'arrêtent au nom d'une science supérieure qui expliquerait tout et qui devait commencer maintenant.
Super.
Oui, quelque chose qui était prévu pour démarrer de demain, quoi. Enfin, demain, selon notre datation, bien sûr. Donc, la science a au moins ce garde-fou, cette barrière rassurante, la science-fiction, pardon, qui est de la permanence, en tout cas dans les romans de science-fiction, des lois de la science qui, si elles sont bousculées, ne sont jamais remises en cause.
Ben, ce qui est un petit peu étonnant, c'est peut-être que ça nous permet de relativiser la chose. Mais si on regarde de près la littérature de fantasy, si on enlève quelques exceptions, la magie, des dragons, mais après tout c'est une biologie un peu extrapolée, si on enlève ça, les lois fondamentales de la physique et de la chimie sont parfaitement respectées dans la fantasy.
Y compris la magie.
Et la magie peut avoir une rationalité parfaite, par ailleurs.
La magie repose toujours sur la causalité. Si vous faites un filtre d'amour et que vous le faites bien,
ça marche.
Demain, vous referez un filtre d'amour qui fonctionne bien.
Mais si on le fait mal, ça ne marche pas.
Voilà.
Denis.
Oui, c'était pour rebondir. C'est vrai qu'on est vraiment passé de l'utopie des nombres qui chantent à la dystopie, donc aux utopies négatives, et au passé qui chante, hein, avec une réaction montante à tous les... Mais c'est pas que la SF. En tant qu'auteur de SF, moi j'ai l'impression, en faisant une dystopie, parce que j'en fais une, de ne traduire que l'angoisse dans notre société. À aucun moment, c'est ma vision du futur. C'est notre vision du futur, c'est-à-dire qu'on est intimement persuadé, pour beaucoup, qu'on va de mal en pis. Donc il y a quand même cette chose qui se répète partout, et je crains même que les gens les plus opposés au changement climatique, enfin ceux qui disent que ça n'existe pas, sont les seuls positivistes aujourd'hui, quoi. Même s'ils ont totalement tort.
Au sens optimiste.
Oui. Et voilà, on est dans un monde extrêmement effrayant si on pense au lendemain. Donc peut-on penser le futur? Quand tout ce qu'on nous en dit est terrorisant...
Mais ça ne fait pas envie.
Je pense qu'on arrête de le penser, que c'est même un exercice de détourner les yeux. Si en ce moment, c'est l'heroic fantasy qui est le genre refuge, ce n'est pas pour rien. Dans Game of Thrones, on détourne les yeux de toutes nos questions d'aujourd'hui. Même si, quand on y réfléchit, entre la gentille heroic fantasy à papa et là, celle où les personnages meurent... d'épisode en épisode, on retraduit encore une fois ces angoisses-là et ce sentiment de fin du monde. Donc, voilà, penser le futur aujourd'hui, ça voudrait dire accepter, regarder un cauchemar prévisible dans les yeux. C'est quand même un exercice délicat. Moi, je l'ai fait dans Universal War parce que quand j'ai commencé en 97, on était dans l'euphorie de la bulle Internet. On a un peu oublié, mais on a cru un moment que ça allait mieux. La couche d'ozone, c'était un peu en train de se traiter. Le changement climatique, c'était pour les gens très avertis. La bourse repartait. Puis il y avait puis les GAFA, c'était l'avenir. Hein. Google, tout ça, c'était des rêves merveilleux. Ils n'existaient même pas. Donc, Internet allait faire de tous les gens des gens cultivés. Ça allait être un endroit merveilleux où les discussions ne verraient jamais la présence d'un troll. Enfin, et quand j'ai commencé, moi, j'avais de mes lectures scientifiques de l'époque déjà le sentiment qu'on a aujourd'hui de la catastrophe imminente. Parce que cette lecture-là nous laisse à penser qu'on va avoir beaucoup de mal à dominer le cheval fou qu'on a lancé au galop. Donc je j'ai fait une dystopie, j'ai fait un futur effrayant pour parler de cette peur de la catastrophe. Il s'avère qu'aujourd'hui, je le regrette parfois, parce que j'aimerais bien faire une utopie aujourd'hui. J'ai commencé ce travail-là, je vais le finir, mais dans l'absolu, j'ai l'impression d'avoir fait partie des gens qui empêchent aujourd'hui de regarder le futur, justement. Pas tout seul, hein, on est plein de coupables, hein, mais en effet, j'ai énorme regret de mon enfance où je regardais le futur. C'était, moi, j'étais enfant réellement, 70 à 80, et on était encore sur la fin de la conquête lunaire, l'homme qui avait 3 milliards, toutes ces choses-là. Hein. Mmh. Dans le futur, on allait avoir des jambes pour faire des bonds de 20 mètres. C'était quand même génial, quoi. Donc, j'aimerais bien y revenir. Parce que certains jours, j'ai envie de refaire de la science-fiction naïve et positive.
Hélas, voilà. Hélas. Catherine.
Oui, alors moi, je voulais justement m'inscrire totalement en faux contre le fameux « c'était mieux avant ». Je vais raconter une histoire. Moi, je suis rentrée en 6e il y a bien longtemps, en 76. Et alors là, j'ai eu tout le discours des vieux qui étaient « Ah là là, votre niveau est vraiment lamentable au niveau orthographe et autres. Il y a 10 ans, c'était tellement mieux. » Alors j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et en 86, j'ai lu un article disant « Ah là là, les jeunes en 6e, maintenant, c'est épouvantable. Il y a 10 ans, c'était tellement mieux. » Je me suis dit « Ah, c'est pas ce qu'on nous disait. » J'ai lu le même article en 96, le même article en 2006. Je parie que je vais lire le même en 2016. Donc, globalement, je pense que quand on prend un peu d'âge, on prend de l'amertume et on a tendance à trouver que l'avenir ou le présent était mieux avant. Donc je voulais dire aux jeunes ici présents, chers jeunes, n'écoutez pas les vieux qui grognonnent, c'est notre boulot d'être avoir de l'amertume et de l'angoisse, et votre travail à vous, c'est de trouver que votre époque est formidable, même si elle est difficile. Voilà.
Eh bien,
puis peut-être aussi voir que ce...
Nicolas.
Ouais, cette vision d'un futur qui va être que négatif, on la partage dans le monde occidental, mais il y a d'autres cultures dans lesquelles c'est pas forcément le cas. Hein. Il peut y avoir beaucoup plus de positivisme, parce que peut-être ils n'ont pas ressenti certaines crises que l'on a pu vivre au fil du temps. Donc il faut aussi nuancer ça. Un autre point moi, qui me frappe dans ces discussions, et c'est aussi une anecdote sur le bouquin là, que j'ai fait. Un des problèmes de ce bouquin, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Une des raisons pour lesquelles il n'y en a plus beaucoup, c'est pas que j'en ai vendu énormément, c'est que le distributeur a vu le titre, a fait « Ouh, futur !» Non, dans le monde francophone, le futur, ça fait peur. Il faut pas trop sortir d'ouvrages comme ça. Et enfin, ça s'est vendu en quelques mois, et ça s'est plutôt bien vendu. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une sorte de présupposé que le futur ou l'avenir, appelons ça différemment, fait peur, et que du coup, nous, ou les gens en général, veulent pas s'y intéresser. Alors que c'est pas vrai, quoi. La preuve, enfin, je pense que vous en êtes le témoin. Et donc, il y a un peu ces espèces de visions un peu erronées. C'est sûr que c'est difficile de se représenter demain après une forme de remise en question du positivisme, de certaines catastrophes technologiques, mais ça indique pas que nous tous, nous ne sommes pas concernés. On va tous vivre, ou espérons-le, encore dans un futur proche. Et il y a un intérêt pour se représenter ce que ce futur va pouvoir nous donner à voir ou nous donner à vivre. Et je trouve que parfois, le fait de couper la discussion, comme moi, ce qui est arrivé dans mon cas, est un peu étrange, et comme si c'était un présupposé, enfin, un espèce de cercle vicieux d'être présent dans un espèce de présent permanent et puis de ne pas vouloir en sortir, alors que nous tous, nous demandons de quoi demain sera fait, et puis on ne sait pas, mais on peut se projeter, on peut essayer de se le représenter par la fiction, par l'art, par différentes formes de création, par des dialogues entre science, art, etc., etc. Ça ne tient qu'à nous d'avoir ce débat.
Oui, simplement pour compléter ce que tu dis, je rassure les éventuels lecteurs de ce livre, il ne s'agit pas de dénigrer le futur ou de le peindre en noir, il s'agit simplement de décrire la difficulté croissante qu'il y a à le décrire et à le représenter, et les nouvelles manières de le représenter qui ont lieu maintenant. Donc c'est pas du tout un bouquin pessimiste, pas du tout.
Non, en plus.
Pas du tout, au contraire.
Mais en général, quand on met futur avec un point d'interrogation à côté, oui. Et si on ne regarde pas le contenu, on se dit ouf.
Peut-être que le titre était mal choisi.
Ah, ça c'est une autre question.
Oui, Catherine à nouveau.
Oui, moi, j'ai, là, va y avoir la COP21, la Conference of Parties, c'est-à-dire, en gros, la conférence climatique. Et il y a une revue géniale qui s'appelle Mode de vie sans carbone, qui recense la totalité des trucs géniaux qui sont en train d'être mis au point pour justement se sortir de la crise climatique, aussi bien des nouveaux modes de vie, des modes de vie écologiques, des modes de vie éthiques, des modes de vie décroissants, mais aussi énormément, c'est pour ça que je le lis, d'innovations technologiques, de l'algue qui mange le gaz carbonique jusqu'à comment faire du béton avec des cendres volantes. Et y a quand même des publications qui sont très très porteuses d'espoir, d'une multitude de projets, tous plus intelligents les uns que les autres. Il y a même une bactérie qui mange des ordures et qui chie des briques, mais vraiment quoi. Donc voilà, il y a de quoi, si on veut, si on cherche, on trouve vraiment des sources d'espoir et d'optimisme.
Oui, j'irais même jusqu'à dire qu'au fond, un des intérêts majeur de la crise climatique, c'est de nous donner un objectif. Même si cet objectif est un objectif négatif, c'est-à-dire empêcher la catastrophe, c'est un objectif clair. Les moyens sont à peu près connus. Je veux dire, la mesure de la réussite de ces moyens est à peu près assurée. D'une certaine manière, on y voit un petit peu plus clair qu'on ne le voyait il y a 40 ans. Parce qu'on sait ce qu'on a à faire. On sait que ce n'est pas facile. Et on sait en gros comment il faut faire. Et on sait que ça sera une bagarre. Mais au moins, d'une certaine manière, l'avenir est tracé. Tu disais. J'étais loin du micro, pardon.
Oui, oui. Je vais essayer de répondre de façon très schématique. Il y a eu une période où on essayait de comprendre ce qui arrivait au présent à partir du passé. C'est les anciens faisaient cela. À chaque fois qu'un événement se produisait, ils l'expliquaient à partir du passé. Ensuite, on est passé dans la période dite moderne, où au contraire, c'est le futur qui est le guide de nos actions grâce à l'idée de progrès. On configure le futur, on le rend désirable, et ensuite on se sacrifie pour le faire advenir. Donc l'idée de progrès, c'est une idée à la fois consolante, parce qu'on tolère mieux la situation dès lors qu'on pense qu'elle sera meilleure pour nos enfants, et elle est sacrificielle, parce qu'au nom de cette image du futur qu'il faut construire, nous allons travailler à la faire advenir, puisqu'elle n'arrivera pas toute seule. Et il me semble qu'aujourd'hui, comme nous n'avons plus d'idée du futur, nous ne savons pas à quoi ou pourquoi nous pourrions nous sacrifier afin de faire advenir une vision que nous n'avons pas. Et donc l'idée de progrès est en crise. Et d'ailleurs, c'était mesuré par des logiciels. Le mot progrès est en train de disparaître des discours publics. Il est remplacé par le mot innovation. Alors, j'ai un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps qui a fait un historique de tout ça. Et je crois qu'il sera là demain ou après-demain. Ce que vous dites sur le changement climatique, c'est révélateur. C'est-à-dire, on dit qu'il y a un problème, un défi à relever. Nous savons ce que nous devons faire. Et il faut donc innover. D'ailleurs, la Commission européenne a produit un texte qui veut que l'Union européenne devienne en 2020 l'union de l'innovation. Et quand on lit la première page de ce texte, il est dit que l'innovation est la seule ressource dont nous disposions pour relever les défis du présent. Changement climatique, problème d'énergie, vieillissement de la population, raréfaction des ressources, etc. Autrement dit, il faut innover pour empêcher le monde de se défaire. Mais ça, c'est un discours qui est antinomique du discours des Lumières. C'est l'idée que le temps est corrupteur, le temps abîme les choses, et si on veut qu'elles se maintiennent, il faut innover dans tous les secteurs. Alors que le discours des Lumières, le discours du progrès, c'était le temps est constructeur à condition qu'on fasse l'effort de faire advenir un futur meilleur. Et donc je trouve que le fait d'avoir remplacé le mot progrès par le mot innovation est une façon déguisée de procéder à un retournement intellectuel, si vous voulez. Qui fait que nos discours sur le futur sont forcément négatifs, puisqu'on présente le présent comme étant la source des problèmes qu'il faut corriger. Mmh. Et j'ai un ami qui s'appelle Olivier Rey, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Une folle solitude, qui donne beaucoup d'importance à un événement historique qui est passé inaperçu dans les années 90, c'est le retournement des poussettes. Avant, les enfants étaient poussés dans le sens contraire de la marche. Ils regardaient leur mère ou la personne qui les poussait pouvait échangeaient des sourires, des grimaces. Bref, ils étaient connectés à leur histoire. Et puis un jour, pour des raisons qui sont liées au jogging, à la mode du jogging et au congé de paternité accordé aux pères en Suède, les pères, ils avaient congé de maternité, donc ils sont mis à... C'était la mode du jogging, donc ils poussaient les poussettes, mais en même temps, ils voulaient courir. Donc ils ont inventé la poussette à trois roues qui est dirigée vers l'avant. Et donc l'enfant, au lieu de voir un visage familier qui le connecte à sa propre histoire, ne voit que des visages anonymes et il a peur du futur. Et donc, il faudrait remettre les poussettes dans le bon sens.
Et passer d'une attitude défensive à de nouveau une attitude offensive. Là, on ne la voit pas trop venir. Denis Bergeron.
On peut même se demander, en fait, si c'est un futur effrayant qui fait qu'on ne le pense pas ou si c'est nous qui avons changé et qui est dans un système où on ne veut pas regarder le futur, on ne veut pas changer, justement. On serait dans un immobilisme très selfie, quoi. Comme je suis bien maintenant, quoi. Est-ce que ce genre de choses montantes fait que finalement, regarder le futur, ce serait déjà regarder son vieillissement, ce serait regarder tout ce qu'on risque de perdre, tout ce qu'on risquerait d'avoir à partager, etc. Et que finalement, un immobilisme parfait, dans un temps même imparfait comme notre présent, ne serait pas un peu le rêve hédoniste du consommateur roi aujourd'hui, quoi.
Il y aurait une corrélation entre le sens des poussettes et le sens des appareils photo ?
Je pense. Oui, c'est ça, exactement. Oui. La même régression. Non, simplement, à ce propos, moi, je ne pense pas qu'on soit pour l'immobilisme, mais nous sommes tous devenus conservateurs. C'est-à-dire, nous sommes tous capables de nommer une chose, un objet, une pratique, un paysage dont on souhaite qu'il ne change pas. Ça peut être l'enseignement du latin à l'école, ça peut être la façon d'acheter des tickets de train dans les gares, ça peut être toutes sortes de choses. On veut que ça ne change pas, que ces choses-là ne changent pas. Et je ne connais pas une personne qui soit pas capable de nommer une telle chose. Et du coup, on a peur que l'innovation technologique entraîne dans son sillage d'autres innovations non technologiques, liées aux valeurs par exemple, qui viendraient remettre en cause les choses auxquelles nous tenons. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que la pensée de l'avenir est toujours associée à l'idée que des choses vont disparaître. Des choses auxquelles nous tenons vont disparaître, et ça crée l'angoisse dont on parle.
Mais est-ce que, enfin, je me suis toujours posé la question de savoir si en fait la science-fiction n'était pas née à un moment de l'histoire où les individus pouvaient concevoir que leurs enfants vivraient fondamentalement différemment d'eux-mêmes, que entre leurs 20 ans et leurs 80 ans, s'ils arrivaient jusque-là, le mode de fonctionnement de la société en général aurait changé. Évolution que je situerais entre 1850 et 1920, grosso modo, suivant les pays, suivant les couches sociales. Mais c'est le moment où un individu voit entre le moment où il naît et le moment où il meurt, le monde changer complètement. Chose qui s'était jamais produite avant, le monde changeait trop doucement, trop lentement.
Mais ça continue en même temps, donc c'est étonnant qu'on ne continue pas à produire.
Ah oui, non, mais l'étape est passée.
Oui, mais c'est...
Il fallait passer cette étape, Catherine, puis Xavier.
Ça continue pas, je pense, de façon aussi radicale. Je pense que le changement le plus radical, moi, c'est pas moi, c'est mon grand-père qui l'a vu. Parce que moi, j'ai peut-être vu arriver Internet, mais lui, en gros, il est né en 1900, il est mort en 2000. Il faut voir que quand il allait à l'école, c'était à cheval. Alors, il n'avait pas de cheval, il y allait en sabot. Et il a fini en regardant les hommes aller sur la Lune. Il a dit que lui, le truc qu'il avait le plus marqué... C'était ni la Lune, ni les ordinateurs, il s'est quand même tapé deux guerres mondiales, ni même les antibiotiques. C'est le frigo, un réfrigérateur, et la chose qui a le plus modifié les habitudes des gens, d'après lui, parce qu'il fallait aller acheter à manger tous les jours, rien ne se gardait, tout pourrissait immédiatement, donc énormément de temps et d'argent étaient consacrés à aller tous les jours chercher et préparer de la nourriture fraîche avec tous les problèmes de disette ou de manque de vitamines en hiver. Et pour lui, la grande innovation du XXe siècle, c'est le réfrigérateur. Voilà.
Xavier.
Oui, concernant le présent selfie, j'aime beaucoup, et la notion de conservateur, l'origine de la science-fiction, c'est exactement ça. L'origine de la science-fiction, les premiers récits se passent dans le présent pour un avenir possible qui est immédiatement détruit. Le Nautilus est détruit à la fin, les Martiens de la guerre des mondes ne survivent pas, l'homme invisible est tué, etc., etc., etc. Et en fait, la création de la science-fiction, c'est pas la création de l'anticipation, c'est le vainqueur présent avec des futurs qui sont la confirmation du présent tel qu'il est et tel qu'il doit rester. Une fois de plus, le Nautilus s'abîme au fond des eaux et après c'est fini, tout redémarre en avant comme avant. Détail intéressant, à la fin de l'homme invisible, une fois de Wells, quand l'homme invisible est tué, tout redevient comme avant. Et pire, le pire, c'est l'auberge qui est située dans le village où est capturé au terme d'une traque l'homme invisible. L'auberge s'appelle à l'homme invisible, c'est-à-dire qu'elle rejoint la cohorte des pubs et auberges anglaises. Elles se font dans la tradition et la coutume. Et donc le départ de la science-fiction, c'est ce primat du présent selfie et du présent conservateur, en fait. Il faut que rien ne bouge.
C'est vrai d'ailleurs que la plupart des histoires techniques de Jules Verne sont toutes sans postérité. Ni le Nautilus, ni les 5 semaines en ballon, ni le voyage sur la Lune, ni même la ville, les deux villes des 500 millions de la Bégome, tout ça s'arrête. C'est un petit peu hors de l'histoire, bizarrement. Dites-moi, comment prévoyez-vous la fin de cette discussion? Oui, Nicolas.
De ce qu'on a discuté ici, il y a deux questions. Il y en a une, c'est est-ce qu'on arrive à penser le futur? On arrive visiblement à penser quelques catastrophes. Puis il y en a une autre question, c'est est-ce que tout ça nous intéresse, nous, en tant que société, nous amène à nous donner un nouvel idéal? Un nouvel idéal de progrès, pas forcément d'innovation, donc peut-être moins dans la réaction et la défensive, mais plutôt dans la projection. Et c'est ça qui est peut-être plus difficile, parce qu'au fond, le sentiment général, c'est qu'on arrive à le penser, ce futur. Et il y a le sentiment d'une espèce de catastrophe imminente, à la fois écologique, économique, sociale, etc. Mais c'est ça, ça ne fait pas vraiment rêver, et ça incite à la réactivité. Et du coup, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a, dans la science-fiction ou dans d'autres endroits, est-ce qu'il y a d'autres manières de retrouver une espèce de d'idéal commun ensemble? Et enfin, ça prend du temps tout ça, donc c'est peut-être pas anodin que on soit frustré. Et puis il y a certainement, enfin moi ça, c'est un peu mon sentiment, il y a d'autres endroits dans les arts, la littérature, des formes culturelles peut-être un peu moins visibles que peuvent peut-être qui peuvent peut-être faire éclore justement des visions qui pourraient être, non pas être forcément consensuelles, mais au moins donner une espèce de lueur d'espoir pour se projeter. On parlait tout à l'heure là, de culture low-tech et de solutions possibles à la catastrophe écologique, mais il y a certainement d'autres territoires, dans les arts, dans la culture, dans lesquels peuvent s'imaginer ces choses-là. Mais comme souvent, il y a des logiques économiques pour produire des œuvres, des documents, des recherches. Donc ça prend. Moi, je pense qu'il y a une question fondamentale de prendre le temps de prendre conscience de ce problème-là, et puis que ça c'est en train d'apparaître à droite à gauche, mais ça reste encore balbutiant. Et on est partagé entre une certaine, enfin, devoir être patient, mais en même temps de se dire mais qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour pouvoir imaginer des futurs qui soient une direction intéressante.
Denis Bergeram.
Il y a peut-être une certaine perte de l'innocence aussi. On est une civilisation qui est vraiment, vraiment adulte aujourd'hui, très consciente quand même d'elle-même. Quand on a une idée, on la googlise, on voit qu'elle a déjà été tentée, qu'elle a déjà échoué. Des choses qui étaient inimaginables avant. Avant, les initiatives personnelles étaient plus faciles, finalement, on ne savait pas. Maintenant, c'est très... Moi, à chaque fois que j'ai une... Là, en ce moment, on fait les états généraux de la bande dessinée. À chaque fois que j'ai une idée pour faire progresser notre petit milieu, je la googlise. Et le nombre de fois où j'ai une réponse qui me dit « Ben non, arrête Coco, ça sert à rien. » C'est déjà fait, c'est déjà raté. C'est une chose qui me frappe et c'est un peu les discussions entre adultes. J'ai l'impression que dans les années 60, quand on regarde Star Trek, c'est une pensée de gosse par rapport à la société actuelle. Il y a une innocence là-dedans, mais gosse dans tous les, au sens le plus positif du terme. Hein. Il y a une innocence, une envie. Il rêve quand même d'une société sans argent, dans laquelle on explore l'espace en faisant quasiment jamais de guerre. Alors que c'est la guerre froide. Hein, c'est une réponse à la guerre froide, hein, même très, très volontairement, je pense, de dire l'homme va se sortir de cette bouillie-là. Mais il y a beaucoup d'innocence dans tout ça. Et quand on regarde l'évolution des formes d'art et de fiction ces derniers temps, c'est bien la montée, non pas de l'innocence, mais d'une espèce de... Mais non, mais en fait, il y a plein de monstres parmi nous, l'homme est sordide. On voit la transformation du super-héros Marvel, par exemple, qui est dans le merveilleux absolu dans les années 60 et qui devient meurtrier dans les années 90. Quoi. Voilà, c'est... on est dans une histoire, peut-être penser le futur nécessite une certaine innocence, inconscience, bonne volonté, toutes ces choses-là, et ça interroge notre difficulté à penser le futur, notre état de aujourd'hui à nous tous en tant que civilisation. On est un peu quand même comme un vieux couple qui croit plus en rien, quoi. Et ça, c'est vraiment, et en ça, on devient conservateur comme tous les vieux. On rejoint, hein, c'est. Non, pas tous les vieux, pardon, on en connaît des formidablement révolutionnaires. Mais dans le, voilà, c'est cette tendance-là, et c'est un signe de notre vieillissement. Est-ce que c'est juste une progéria qui n'a pas duré longtemps? Espérons, quoi. Mais c'est ça la question. Et ne pas... Les vieux, ils ne pensent pas à leur futur, ils vont bientôt mourir. Ils organisent leurs obsèques, quoi. Non, je, encore une fois, c'est une caricature, mais vous voyez bien le ce qui peut être derrière ça. C'est un, moi, c'est le genre de question qui me travaille depuis quelques temps, c'est... Est-ce qu'on n'est pas simplement trop vieux?
Et parce que tu vieillis, toi aussi.
Mais parce que je vieillis aussi, exactement. Oui. J'espère que des jeunes cons vont me montrer que c'est moi qui suis vieux et pas toute la société.
Je vais passer la parole à Catherine. Après, peut-être, sauf si vous avez quelque chose d'absolument essentiel à dire, nous passerons la parole à la salle pour quelques questions. Catherine.
Oui, non, je voulais dire que j'ai plus l'impression qu'on est dans un présent assez moisi, puisqu'on a effectivement un modèle... qui consiste à consommer toujours plus à grands coups de pétrole, c'est juste pas viable, et qu'on est en train d'essayer de penser à un avenir qui ne soit pas complètement aussi absurde que le présent. Plus l'impression d'un avenir qui brille davantage que le présent que l'impression d'un avenir bouché ou inexistant. De toute façon, à chaque fois qu'on me dit « Ah, mais on ne peut pas penser l'avenir parce qu'en 2050, il y a une singularité, on n'arrive pas à voir au-delà », là où on dit singularité, moi, j'entends manque cruel d'imagination.
Je suis assez d'accord. Y a-t-il dans la salle des questions, des réactions, des critiques, des interrogations, des suggestions, des idées, il y en a sûrement des idées, mais qui voudraient s'exprimer? Je vois une main se lever là-bas au fond. Non, pas au fond du tout. Oui.
Ce problème de penser le futur et pas aussi le fait que maintenant, contrairement à avant, on nous donne le futur dans les mains et on dit c'est à vous, démerdez-vous. Alors que comme on le racontait, on disait avant, le futur était tel que, c'était cyclique, il y avait la fatalité. Après, il y a eu la notion de progrès en disant le progrès, il est là, c'est ça, allez le chercher. Maintenant, c'est mais démerdez-vous, maintenant, l'avenir, il est maintenant et construisez-le. Donc finalement, c'est ce surplus d'individualisme qui tue le futur.
Qui veut répondre?
Non, Catherine. Je pense que c'est plutôt un pari sur la jeunesse, ou du moins les forces vives actuelles, que de l'individualisme. Au contraire, j'ai l'impression, probablement à travers aidé par les réseaux, le développement de communautés lâches, larges et variées, qui me paraît un grand avantage pour arriver à mettre au point des systèmes efficaces.
J'ajouterais, moi, que je pense que l'individualisme n'est pas une pensée ou une action qui est liée au futur, mais qui est liée au présent, voire même à l'instant. Je ne suis pas certain que les vrais individualistes pensent au futur, voire même à leur propre futur. C'est une pensée de l'instant, un intérêt de l'instant. Enfin,
J'ai vu une main se lever là, oui.
Rebonjour, je vous ai parlé ce matin.
Oui.
Je pense que ce que vous disiez, c'est que on peut pas, pour moi, penser qu'il n'y aurait pas de futur. Parce que l'homme, je trouve, pourra toujours arriver à un certain stade, repousser les limites. Et la limite, c'est peut-être la limite physique au final. La limite qui fait que la Terre aurait plus de ressources, et je pense que y a pas d'arrêt au futur, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez loin en fait dans l'histoire peut-être pour commencer déjà à envisager le fait qu'il n'y ait plus de futur. On est au début en fait. Et j'étais pas vraiment d'accord avec ce que disait votre confrère en disant que les vieux ils pensent pas. Alors c'est pas contre vous, monsieur, hein. Mais ils pensent pas à leur futur à eux, évidemment, parce qu'ils vont mourir dans bientôt. Mais ils pensent au futur de leurs enfants, de leurs petits enfants et au futur qu'il y aura après. Donc pour moi il y a pas d'arrêt en fait. Et le futur est toujours envisageable du fait que l'homme de tout temps a voulu repousser les limites. Et c'est vrai qu'un jour, les limites vont s'étendre encore plus loin. Et c'est encore un autre débat qui s'est passé ce matin, enfin, table ronde qui s'est passée ce matin, qui disait tout à peu près autour de la colonisation de l'espace et des ressources technologiques. Et justement, ça rejoint exactement ce fait. Et pour moi, ça ne s'arrêtera pas, quoi. Jusqu'à ce que les limites physiques n'en puissent plus, quoi.
Étienne Klein.
Oui. Non, mais merci pour cette question et ce commentaire. Je crois pas qu'on ait dit qu'il n'y aurait plus de futur. On a juste posé la question de savoir si le futur, dont on ne doute pas qu'il existera et deviendra présent, est pensable ou pas. Il reste vrai que, comme le disait le chat de Gueuluc, dans le passé, il y avait plus d'avenir qu'aujourd'hui. Hein ? Ça, c'est pas contestable. Maintenant, et là, je rejoins parfaitement l'analyse, très souvent, la physique, elle est utilisée pour faire rêver. L'astronomie, l'astrophysique, c'est, même la physique quantique, c'est des choses qui nous invitent à rêver tellement c'est extraordinaire. Et ça permet d'envisager des situations incroyables. Mais il y a des cas où la physique, elle est là justement pour nous empêcher de rêver. Par exemple, sur les questions d'énergie. Évidemment, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, mais on ne peut pas, ou on n'a pas le droit, en tout cas, d'imaginer des scénarios qui violeraient les lois physiques connues. Or, les lois de l'énergétique, elles sont assez bien connues depuis très longtemps. Et donc imaginer des scénarios qui violeraient ces lois, ce qui contribuerait à rendre moins grave la perception qu'on a des problèmes réels, serait catastrophique. Comme disait Feynman, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire, avec nos discours, on peut raconter toutes sortes d'histoires, mais à la fin, c'est la nature qui décide si les histoires sont vraies ou pas. Et donc, sur les questions d'énergie, comme beaucoup d'autres sans doute, moi je suis pas inquiet au sens où je ne dis pas qu'il y a une catastrophe qui s'annonce, mais qu'on va vers un mur terrible qui vient des limites que la physique impose à cette question. Et les solutions passeront certainement par des changements de conditions de vie, peut-être pas pour tout le monde, pas pour tout le monde de la même façon, mais qui pourront être assez radicaux.
Et la peur du futur, elle vient simplement du fait qu'il y a une fenêtre qui est assez étroite pour s'en sortir maintenant. On ne parle pas de changement climatique globalement. Tout cet équilibre sur la planète tel qu'il est aujourd'hui, si on n'arrive pas à le changer, et y compris peut-être en allant voir en dehors de la planète, ça peut très mal se terminer comme l'effondrement de Rome sur lui-même, etc. Je pense qu'on est tous assez conscients, même sans pouvoir le formuler, de l'étroitesse de cette fenêtre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à passer à travers. Hein. On est très intelligent, l'humanité. Hein. On peut réussir à faire des merveilles. Hein. On va y croire. Hein. Mais voilà. Et bien sûr que les vieux ont des enfants.
C'est vrai. C'est vrai. Bien, je crois que nous en aurons fini. Je pense que la conclusion... Il y a encore une dernière question là-bas au fond. Je vois que personne n'attend. Alors on peut y aller. Une dernière question, mais vraiment the last one, comme on dit en espagnol.
Bonjour.
Oui. Bonjour. Bonjour.
Alors, c'est une remarque qui va déboucher sur deux questions que vous n'aurez sans doute pas le temps de traiter, mais peut-être que ça vous inspirera quelques mots. J'ai noté un certain nombre de mots que vous avez employés. Il y a eu technique, technologie, même innovation. Et il y a un mot qui a été présent un petit peu en filigrane, notamment chez Madame Dufour et Monsieur Klein. C'est le mot politique. Quand on pense en fait le futur, là on part du présent, on part d'un constat sinistre dans lequel il y aurait tout un tas de problèmes. Et l'Europe l'a dit, l'innovation semble être la seule piste pour régler ces différents problèmes. Mais est-ce que ça n'est pas justement ça qui rend impensable la chose à partir du moment où on postule que les problèmes n'ont de solution que technique ou technologique, alors que essentiellement les problèmes que nous avons dans notre société ont des solutions politiques et économiques essentiellement. C'est-à-dire que la technologie va être, et l'innovation peut-être, va être au service de cela, mais c'est avant tout la solution, ça va être le changement, par exemple, des modes de vie, une nouvelle manière de produire à une échelle industrielle poser un certain nombre de cadres qui vont permettre justement de résoudre ces problèmes. Mais là, on est clairement à une échelle politique et économique, là où peut-être trop se focalise, pour peut-être des raisons idéologiques, sur la stricte innovation. Donc ça, c'est le constat, vraiment la réaffirmer la place du politique pour rendre pensable, en tout cas, l'avenir, au moins sur le moyen terme et le long terme. Et donc, deux questions, et une sur la science-fiction. Est-ce que les auteurs, selon vous, qu'il s'agisse d'écrivains, de cinéastes, de science-fiction, est-ce que la question politique est un peu plus évacuée des discours et on se focalise plus sur l'aspect strictement technologique ? Quelle impression vous avez entre le dosage éventuellement qu'il peut y avoir entre l'aspect critique sociale et politique qu'il y avait pu avoir dans une certaine science-fiction et l'aspect strictement narratif ou presque technophile qu'on pourrait trouver dans certains ouvrages. Et après, la question politique, c'était dans le discours public la même question, en gros. Est-ce que c'est pas une manière d'évacuer la vraie critique sociale et politique, de ne se focaliser que sur l'innovation ?
Je pense que nous allons donc maintenant ouvrir une deuxième table ronde sur ces questions-là, parce que je pense qu'elles sont absolument essentielles, qu'effectivement, elles ont survolé un petit peu nos débats dans l'heure qui vient de s'écouler, mais que ce sont peut-être sur cette question-là qu'il faut qu'on se penche. Je crains le problème, c'est que nous en avons maintenant fini, nous avons épuisé notre temps, mais je crois que cette discussion-là doit avoir lieu inévitablement. Mais merci à tous.
On peut peut-être dire rapidement que la politique chevauche l'air du temps plus qu'elle ne le crée en général. Donc toute notre difficulté à penser le futur dont on parlait là, c'est la difficulté du politique aussi aujourd'hui. Donc voilà.
En tout cas, merci à tous et rendez-vous à une autre table ronde bientôt. Merci.